Alors du coup, on va commencer cette soirée sur la République de l'ethnocafé. Donc on a l'un et l'autre lu un livre. Je sais pas qu'est-ce que vous avez recommandé ce livre.
C'était moi.
C'était Isabelle, donc, qui l'avait.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est Isabelle.
Qui s'appelle Habiter poétiquement le monde, une anthologie donc qui regroupe une série de textes de poètes et d'auteurs à partir du 18e, je pense, jusqu'à maintenant. Moi, c'est là que j'ai rencontré par son texte Monsieur Tello. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée de vous inviter. Vous l'avez dit, vous êtes professeur émérite de littérature française à l'Université de Lyon, à Lyon 3. Après, je vous laisserai, n'hésitez pas à prendre le temps pour vous présenter votre travail, pour vous présenter plus en détail. Vous êtes ancien élève d'Yves Bonnefoy au Collège de France. Vous êtes intéressé à René Girard et Michel Henry. Vos écrits portent sur la poésie romantique, qui tient une place importante aussi à l'Ethnocafé, poésie romantique et moderne, et la philosophie de l'affectivité et sur les conditions d'image. Alors ce soir, on vous a proposé d'intervenir sur la question « Que peut la poésie ?». Alors le thème de l'Ethnocafé, c'est « Que peut la poésie sur le soin ?». Donc après, on vous a dit cette envie d'emmener ça sur la question politique et du coup, dans ce souci-là, on avait trouvé un premier titre qui était « Que peut la poésie sur le monde ?». Et puis, en discutant, voilà, peut-être qu'il faut-il revenir à une certaine prudence et se limiter ce soir au titre « Que peut la poésie ?», mais vous nous donnerez votre point de vue. Que peut la poésie et qu'est-ce que la poésie aussi ? Qu'est-ce qu'elle est ? Donc voilà, c'est la République de l'Ethnocafé et c'est l'Ethnocafé au travail. Et du coup, avec plaisir, je vous donne la parole.
Je vous remercie vivement pour cette invitation, qui me fait plaisir parce que c'est le résultat, si je comprends bien, de livres lus, enfin de la transmission, d'une part, et d'autre part, qui me surprend, je dois dire. Vous m'étonnez parce que manifestement, vous prenez la poésie au sérieux et c'est rare. Et vous la prenez, disons, pratiquement, politiquement, médicalement, au sérieux. Et ce n'est pas exactement ça qu'on fait auprès des étudiants et des élèves. C'est-à-dire qu'on la prend très au sérieux auprès des étudiants et des élèves, mais pas pratiquement, sans qu'aucune politique ou pratique s'ensuive. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très intrigué et très honoré, bien sûr, mais très intrigué, très désireux, très curieux de votre invitation. D'une part. D'autre part, je vais essayer au fur et à mesure d'un petit exposé. Ça dépend combien de temps vous voulez que je parle, parce qu'on peut parler toute la nuit, on peut en avoir assez. Ça, il faut aussi qu'il y ait des contraintes.
Ça peut être 3 heures d'heure.
Ça peut être...
Disons que
c'est quand vous voulez.
Quand vraiment vous en aurez assez, on va penser à m'arrêter. D'une part, et d'autre part, en effet, je comprends que c'est une conversation que nous avons, et une recherche collective, et non pas... la récitation d'un seul, à bien loin près. Tout de même, ne sachant pas ce que vous faites, ni dans le parc de la Tête d'Or, ni dans la forêt lointaine, ni comment vous pouvez le faire, je ne vais pas m'engager du tout sur les possibilités qu'aurait le phénomène poétique, disons, de retentir sur l'exercice de soins. Donc je vais essayer de tenir un propos un peu plus général, et un peu plus conceptuel, pour qu'on, disons, choisisse au moins ce soir, ensemble, un vocabulaire commun, pour essayer de s'entendre dans une conversation dont le lexique soit fixé. Et donc, en essayant aussi de répondre à cette question indéterminée, il faut le dire, que peut la poésie, je serai de dire tout à l'heure pourquoi j'ai préféré ce titre un peu restreint, plutôt que celui que vous aviez proposé, que peut la poésie pour le monde. Parce que, en effet, du monde, il faut encore produire une définition, et il me semble que l'expérience du monde que la poésie est susceptible de faire produit implicitement du monde une définition qui n'est pas commune. Et, d'ailleurs, pour commencer, ce livre que vous avez lu, grâce auquel on se connaît, « Habiter poétiquement le monde », d'emblée, il... use d'un vocabulaire situé, parce que c'est une formule de Heidegger, n'est-ce pas ? C'est Heidegger qui proposait que la poésie soit la voie d'accès à un habitat poétique du monde, Et donc, c'est, comment dirais-je, circonscrit dans un moment de l'histoire de la philosophie du XXe siècle, et on n'est pas tenu, disons, de suivre ce vocabulaire, même s'il a ses vertus, et pour ma part, je lui suis plutôt favorable, mais enfin, vous voyez, il faut qu'on recompose la conceptualité à tout moment, puisque la poésie, c'est précisément le recommencement de la parole, comme je vais essayer de le dire. Alors voici la question, que peut la poésie? C'est une question trop indéterminée pour qu'on y réponde, et donc il faut la reformuler par tous les bouts. Le premier bout, c'est le bout poésie. Poésie est un mot qui n'est pas clair, qui est un concept, qui a une extension infinie, une compréhension infinie. Il y a la poésie, je ne sais pas moi, des fleurs des champs, il y a la poésie du crépuscule et de la lune, il y a la poésie du temps, il y a la poésie de l'amour, il y a aussi la poésie des poèmes versifiés, et il y a aussi la poésie des textes non versifiés, il y a aussi la poésie du silence qui n'a rien à voir avec le texte, puis on peut commencer, on peut continuer, je veux dire, comme ça toute la nuit, n'est-ce pas, le mot de poésie étant disponible, comme tous les autres mots d'ailleurs, par chacun qui peut l'habiter à sa façon. Alors il faut qu'on circonscrive tout de même un peu, pour nous au moins ce soir, ce que poésie peut vouloir dire. Et je propose qu'on s'arrête plus précisément sur poème. Non pas nécessairement poème versifié, encore que je parlerai quand même pas mal de la versification, pour des raisons que je crois fondamentales, mais en disons poème. Pour des raisons que voici. Si on use du mot poème plutôt que du mot poésie, on peut s'adosser à cinq déterminations évidentes et que chacun pourra donc faire sienne pour comprendre ce dont il s'agit. Le poème, c'est, comme le dictionnaire ordinaire l'indique, un art des mots. Bon, alors laissons le mot art, une pratique des mots, un usage des mots. Bon, autrement dit, la première notion qui tombe sous le sens, c'est que avec le poème, il y va de la verbalité. Bon, voilà, il y va de la verbalité. Alors maintenant, nous excluons pour la commodité de ce soir la poésie de la lune, la poésie des champs, la poésie de l'amour ou du temps. Nous parlons de la poésie du poème, c'est-à-dire en tant qu'il est enraciné et conditionné par la verbalité. La verbalité étant, disons, la capacité de la conscience humaine d'exercer le langage, pour autant que l'être humain est l'être parlant. Bien. Ça, c'est la première chose complètement évidente. La deuxième détermination, non moins évidente, encore que celle-ci appelle davantage l'attention, c'est que cette verbalité qui s'exerce dans le poème, elle est sonorisée. Même quand il s'agit d'une lecture silencieuse, d'un lecteur solitaire dans sa chambre, le poème n'est pas verbalisé comme ce qui n'est pas lui. Non, le poème est verbalisé avec une sonorisation, alors plus ou moins audible. En effet, dans le cas de la lecture silencieuse, c'est une sonorisation qu'on pourrait appeler implicite, mais enfin qui a lieu du lecteur dans la relation du lecteur avec lui-même aussi. Et puis, en tout cas, dans toutes les traditions de l'histoire humaine, le poème a été sonorisé, entendu, verbalisé, prononcé, récité, de génération en génération, depuis un peu plus de 300 000 ans que Homo sapiens existe. Donc, laissons de côté le silence avec soi-même du lecteur privé et prenons acte que l'humanité tout entière a pratiqué la sonorisation du discours dans la récitation des poèmes. C'est donc le deuxième trait que je voulais dire. Après la verbalité, il y a la sonorité. J'y reviendrai donc tout à l'heure. Le troisième trait, qui là aussi est d'évidence, mais qu'il faut dire, c'est que avec le poème vient peu ou prou, mais nécessairement, quelque chose comme la communauté. C'est-à-dire, pour les exemples que je viens de mentionner à l'instant, dans l'histoire humaine, il ne s'agissait que de cela. Le poème était l'occasion pour la communauté de se rassembler autour du récitant qui faisait entendre le texte qu'on voulait entendre. Alors aujourd'hui, où les communautés, disons, de l'âge de la technique et de la révolution industrielle n'ont plus le même mode de socialité que celui de nos ancêtres, cet événement de la diction du poème, suscitant autour de lui une communauté pour l'entendre, cet événement n'a plus guère lieu, ou n'a plus que rarement lieu. Vous avez rappelé que j'étais un élève et même un disciple d'Yves Bonnefoy. Lui, il s'y a donné très volontiers, et même tout le temps, à vrai dire, car il voulait reformer cette communauté par l'entente de la parole. Mais enfin, je maintiendrai pour la conversation de ce soir, que même quand il n'y a pas visiblement une communauté qui se rassemble autour du récitant, elle est implicitement là. Et même dans le silence de la chambre où le lecteur se penche sur son livre, eh bien, il fait communauté avec lui-même, si je puis dire, parce que passe à travers les mots tout l'héritage de la langue qui coagule et qui s'y relance. La communauté est toujours plus ou moins là, et dans le passé de l'humanité, elle a été totalement là, dans l'événement de la récitation. Donc il y a une dimension politique et archi-politique du phénomène poétique. Le quatrième trait, qui doit être mentionné, c'est que sonorisant ainsi les vocables, récitant ainsi de façon audible le poème à la communauté qui l'écoute, eh bien le poète ou l'aède, comme disent les Grecs, le récitant, fait entendre son corps. Et la communauté des auditeurs, elle aussi, est faite de corps écoutants. Autrement dit, le poème est porté par une voix. Et la voix du récitant n'est la voix de personne d'autre, car il se fait que personne n'a la voix d'aucun autre. Car il se fait que toute voix est, disons, singularisée et individualisée. Elle est, en quelque façon, ou même précisément, l'ajointement dans une personne singulière de son corps et de son esprit. C'est-à-dire que la voix de quelqu'un, c'est simultanément l'expression de sa corporéité particulière, voilà, les poumons qu'il a, les entrailles qu'il a, les muscles qu'il a ou qu'il n'a pas, et évidemment les préjugés qui sont les siens, les habitudes intellectuelles qu'il véhicule, les conditionnements sociaux dont il est traversé, etc., etc. Bref, c'est un mixte indénouable d'esprit et de corps, la voix, mais en tout cas, je le répète, à chaque fois singularisé, ipséisé, c'est-à-dire à nul autre pareil, et le portrait de quelqu'un est donné dans sa voix, pour autant que cette voix est et sera à jamais exclusivement ce qu'elle est. Autrement dit, il y a des corps propres, le corps du récitant et le corps de chacun des membres de la communauté qui l'écoute. Ceci aussi est extrêmement important parce qu'il y a en quelque sorte, enfin en effet, une dimension de finitude de la parole écoutée. Dès lors que c'est le corps de quelqu'un et non pas d'un autre, et de quelqu'un qui, en tant qu'il est celui qu'il est marqué de finitude, est destiné à mourir, eh bien la parole que le poème fait entendre est une parole toujours déjà finie. Finie au sens philosophique de ce terme, c'est-à-dire limitée. Bon, ça c'était le quatrième trait, donc j'ai parlé de la verbalité, de la sonorité, de la communauté, et là je viens de parler un peu de la corporéité. Et le cinquième trait qui est tout à fait fondamental, à mes yeux en tout cas, et qui peut servir de consensus pour que notre lexique soit fixé ce soir, c'est la mémoire. Bon, je me rappelle je répète pour la troisième fois que depuis que l'humanité est ce qu'elle est, depuis la naissance d'Homo sapiens à lui-même, c'est de génération en génération que pendant 300 000 ans, nos ancêtres ont transmis ce qu'il convient d'appeler des poèmes. Et ils ne les ont donc transmis qu'avant l'invention de ce qu'on appelle l'écriture. L'écriture, elle est née il y a 7-8 000 ans, autrement dit hier, hein, par rapport à la longue durée de l'histoire humaine, et tous les poèmes ont été transmis jusqu'à nous grâce à la mémoire des récitants et des auditeurs. Là, c'est un point extraordinairement important. Comment se fait-il que les poèmes aient été véhiculés par la mémoire et des récitants et des auditeurs? Cela repose tout de même sur la versification, ou disons plutôt généralement sur la prosodie. La prosodie, c'était sa fonction fondamentale de favoriser la mémorisation du texte. C'est-à-dire que quand vous avez un texte sans rime, en ce moment on célèbre beaucoup Proust et la recherche du temps perdu, c'est pas tout à fait évident d'apprendre par cœur la recherche du temps perdu. Ce n'est pas parce que c'est long, c'est parce que vous avez des récitants en Inde aujourd'hui qui connaissent 50 000 poèmes extraordinairement longs. Hein. Ce n'est pas parce que c'est long que c'est difficile d'apprendre la recherche du temps perdu par cœur, c'est parce que c'est pas prosodique, ou pas assez prosodique. C'est pas assez rimant, c'est pas assez strophique, c'est pas assez versifié, c'est pas assez marqué par tous les caractères sonores que le vers construit pour que la mémoire soit facile. En revanche, si vous voulez apprendre par cœur l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, c'est pas bref non plus, eh bien ça va. Ça va parce que précisément, il y a la rime, il y a la strophe, il y a la régularité rythmique. Ce sont autant de traits qui facilitent la mémorisation, tout simplement. Donc le fait de la mémoire est tout à fait essentiel parce qu'avec la mémoire va évidemment toute la profondeur psychique. Et par exemple, comme j'aime à dire aux étudiants, il y a aussi que le poème est un événement de la mémoire. Car enfin, avant qu'il soit un événement de la mémoire, que je vais dire dans un instant, le poème c'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est un texte. Mais un texte, ça ne requiert pas, ça n'atteint pas, ça n'émeut pas, ça ne transfigure pas. Un texte, sans doute, nous en avons tant et plus que nous étouffons sous leur masse. Les textes des encyclopédies, les textes des dictionnaires, les textes des journaux, les textes de la radio, que sais-je, il n'y a que ça, des textes de carnet personnel. Nous croulons sous une textualité infinie dont nous sentons très bien qu'elle n'est pas le poème. Et comme je disais à mes étudiants, de surcroît, quand vous lisez un poème, qui n'est qu'un texte pour le moment, ça vous ennuie, soit que vous ne compreniez pas, soit que les tours et détours de la syntaxe et de la prosodie du poète soient trop compliqués, soit que la métaphorisation ajoute de l'énigme, et somme toute, quand on lit un poème, a fortiori un poème moderne d'ailleurs, disons que vulgairement c'est de l'hébreu, enfin pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, et je leur disais, peu importe. Évidemment, dans un premier abord, quand on lit un texte didactique, on peut apprendre quelque chose. Un texte scientifique, on apprend brusquement comment il faut donner le soin. Un texte, je ne sais pas, moral, on apprend brusquement comment il faut se tenir. Un texte philosophique, on apprend brusquement quelles sont les conditions réelles de notre expérience de l'être, que sais-je encore. Tous les textes sont extraordinairement intéressants, sauf les textes bizarroïdes qu'on appelle des poèmes, et qui, dans un premier moment, ni n'enseigne, ni ne nous aide, ni ne nous édifie, de sorte que, comment deviennent-ils des poèmes, ces textes qui sont un peu de l'hébreu ? Eh bien, précisément grâce à la mémoire. Il faut apprendre les textes par cœur, plutôt même que par mémoire, quand même on ne les comprend pas, quand même ils ne nous atteignent pas, mais en attente du moment où ces textes deviendront poèmes. C'est-à-dire que le même texte qui est un peu insignifiant pour quelqu'un qui ne le comprend pas, si c'est virtuellement un poème, le deviendra. Quand il s'en souviendra plus tard, à la faveur d'une expérience fondamentale, le texte devient un poème. Lorsque l'individu réel se trouve dans une situation d'existence où il lui faut faire des choix fondamentaux, c'est-à-dire qu'à de nombreux moments de notre vie, nous sommes soudain requis par des alternatives graves qui nous dépossèdent de nos moyens ordinaires, qui éventuellement même d'ailleurs nous traumatisent, qui en tout cas nous laissent impuissants et parfois même terrorisés, et même ça peut n'être pas des événements menaçants d'ailleurs, ça peut être au contraire des événements glorieux, mais en tout cas des événements tels que nous en sommes muets de sidération. Ces événements-là sont ceux à la faveur desquels le souvenir des poèmes que nous avons, des textes plutôt, que nous avons appris par cœur, lors même que nous ne les comprenions pas, revient à nous, et alors, dans cette expérience même, cette parole nous aide à faire face à l'alternative existentielle devant laquelle nous nous trouvons. Et c'est là, et là seulement, que le texte se fait poème, qui est donc, à ce moment, une expérience de mémoire, cette fois de mémoire subjective, de mémoire personnelle. Bon, voilà déjà une première façon de dire ce que je propose ce soir, mais si ça ne vous convient pas, on fera autrement, que nous appelions poème. avec les cinq traits que je viens de dire. Maintenant, il faut remonter à la question, que peut le poème, ainsi entendu ? Et à nouveau, cette question que nous devons, vous et moi, nous reprocher, finalement, elle n'est pas claire. Parce que le poème peut tellement de choses qu'on va dresser la liste toute la nuit et qu'on n'aura pas fini avec l'introduction. Le poème peut, je ne sais pas, prenons la Grèce antique au 5e siècle avant notre ère, à Athènes, n'est-ce pas, du temps de Périclès, voilà. Les jeunes gens, on leur demandait d'apprendre des poèmes, justement, qu'on faisait bien d'ailleurs. L'éducation grecque, c'était apprendre des poèmes, faire de la gymnastique et faire des mathématiques. Ça, c'est exactement ce qu'il faudrait continuer à faire. Et c'était sage, on faisait des mathématiques pour contempler les essences. On faisait de la gymnastique, eh bien, parce qu'on avait soin de soi-même, pour s'assurer la noblesse du corps, pour cultiver la native noblesse du corps. Et puis on apprenait des poèmes. Pourquoi ? Ben parce que le poème pouvait donner aux jeunes gens, qui étaient des éphèbes, là, dans le gymnase, pouvait donner aux jeunes gens des exemples de vertu. Les poèmes que ces jeunes gens du 5e siècle avant nous apprenaient par cœur, c'était précisément les poèmes homériques, c'est-à-dire, disons, l'Iliade. Et alors, on pouvait, là, apprendre la vertu en se modelant sur le courage, l'héroïsme, des soldats, des héros, des généraux de la Grande Grèce. Voilà ce que le poème peut. Il peut donner des modèles de vertu. Voilà déjà une première réponse. Puis vous avez d'autres types de réponses. Le poème peut vous aider à contempler les essences. Ça, c'est le poème, par exemple, de Parménide, précisément, dont il ne nous reste qu'un fragment, mais qui est un poème qui essaie de déterminer la différence entre l'être et le non-être, n'est-ce pas ? C'est un poème purement métaphysique, enfin disons plutôt ontologique, voilà. Et il y en a d'autres de sa sorte, et même 36 autres, je ne sais pas, le De Natura Rerum de Lucrèce, c'est aussi un poème qui nous aide à considérer l'être même de l'étang, qu'il appelle la natura, c'est-à-dire la fucis, bon, en tout cas le donné originel. Bon, voilà. Alors voilà ce qu'un poème peut, il peut édifier notre science des réalités fondamentales, des réalités ultimes. Bon, mais il peut encore énormément de choses, le poème. Vous disiez tout à l'heure, il peut nous ouvrir un monde, et il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ouvrir veut dire et sur ce que monde veut dire. Mais toutes sortes d'autres choses. Le poème peut, par exemple, louer ce qui est. Toute une œuvre comme celle de Saint John Perse est une louange du monde tel que le poète le perçoit. « J'ai lieu de louer », dit Saint John Perse dès son premier livre, qui d'ailleurs s'intitule « Éloge ». Bon, voilà, c'est une fonction du poème. Ou bien encore, je ne sais pas, le poème peut prier. Il est bon de le dire, car enfin, les plus anciens poèmes sont des prières, et d'innombrables prières sont des poèmes. Et il est très difficile, sinon impossible, enfin j'en sais rien, mais il est extraordinairement difficile de distinguer ce qu'est un poème de ce qu'est une prière. Les grands poèmes de Novalis servent encore dans le psautier protestant de l'Allemagne d'aujourd'hui. Les grands poèmes de Novalis qui sont dans nos livres de poèmes, bah, sans doute ce sont les prières des protestants allemands du sud de l'Allemagne et du nord aussi, je pense, aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que peut le poème ? Bah, il peut demander, il peut implorer, il peut saluer, il peut remercier, que sais-je encore, tout ce que la prière peut, elle aussi. On peut multiplier, vous voyez comme ceci, les exemples innombrables, n'est-ce pas, de tout ce que peut le poème peut nous peut inventer des mondes imaginaires, plus ou moins substitutifs de notre monde à nous qui ne nous convient guère. Les poètes sont des gens qui fabulent de nouveaux astres, de nouvelles terres, de nouvelles conditions de l'existence, des mondes sans mort, des mondes sans maladie, des mondes sans qu'on ait même besoin du soin. Le poème peut fabuler imaginairement tous les arrière-mondes, tous les mondes fictifs possibles aussi. Bon voilà, vous voyez, on peut continuer à décliner sans arrêt toutes les possibilités de ce qu'on peut appeler l'imaginaire verbal, le figural, la puissance poétique de l'imaginaire humain. Et on peut tellement continuer à décliner ceci qu'à mon sens, on ne va pas y arriver parce que chaque poème peut singulièrement un petit quelque chose. Et il faudrait pouvoir déterminer pour chaque poème la singularité de ce qu'il peut. Et du coup, je pense que pour répondre à la question que nous nous posons, que peut le poème, ou plus exactement pour la poser mieux, il faut remonter à une question antérieure. Une question antérieure qui est presque la même, mais qui va quand même nous conduire sur un chemin, à mes yeux, pas inutile. Cette question antérieure, c'est presque la même, c'est pourquoi la poésie ? Ou pourquoi le poème ? Disons pourquoi le poème, c'est plus simple. Pourquoi le poème ? Parce que dans pourquoi le poème, vous avez toujours notre question, c'est-à-dire en vue de quoi ? Pourquoi le poème ? Mais cette question en vue de quoi ? À quelle fin ? Pour quel dessin ? Elle est impliquée maintenant dans une autre question originaire qui est en vertu de quoi ? Le poème. Pour quelle cause ? Pour quelle raison ? Sous la pression de quel motif ? À partir de quelles conditions ? Sous quel horizon de possibilités ? Que sais-je encore ? De quelque façon qu'on formule la question, vous la comprenez bien, il s'agit de réfléchir à ce que peut le poème, à l'envue de quoi il y a poème, mais pour autant qu'il y a poème, ce qui en soi est déjà une énigme. Pourquoi y a-t-il déjà le poème ? Il y a un très beau livre qui avait paru il y a 4-5 ans, 7-8, bon, peu importe, de Francis Wolff, qui était un philosophe, enfin il est toujours un philosophe naturellement, mais il était professeur autrefois à Paris, bon peu importe, Francis Wolff a écrit un livre il y a 7-5-6 ans qui s'appelle « Pourquoi la musique ?» Quel titre extraordinaire, hein. Quelle ambition, magnifique, non ? Enfin, d'ailleurs le livre est beau, hein. En plus il connaît toutes les musiques, enfin c'est formidable. Donc il faudrait faire la même chose, vous voyez, écrire un livre qui s'intitulerait, ou converser ce soir autour de cet intitulé « Pourquoi le poème ?» Alors je vais esquisser la façon dont, non pas je vois la chose, parce que c'est une question qui quand même me dépasse, mais la façon dont j'en parlais à mes étudiants. Parce que c'est un peu curieux que le poème existe. C'est-à-dire que Spinoza dit quelque part « l'homme n'était pas nécessaire, il n'était pas nécessaire que l'homme fût ». C'est pas mal comme phrase. On pourrait dire la même chose, vous voyez. Le poème n'était pas nécessaire, la musique n'était pas nécessaire, il n'était pas nécessaire que le poème fût, il n'était pas nécessaire alors que la musique fût. Alors pourquoi ça ? Alors, je vous propose de repartir de la première remarque que j'ai faite tout à l'heure et qui tombait sous le sens, à savoir la verbalité constitutive du discours poétique, le fait que le poème ce sont des mots, voilà, parce que cette évidence nous reconduit à l'autre évidence que l'homme est un être parlant. Alors je n'entre pas dans la discussion de savoir si les animaux ou certains animaux sont des êtres parlants. Je propose de tenir pour acquis ce soir que nous sommes parlants davantage autrement que tous les autres animaux.
On est dans Zorba.
Voilà, Zorba, il s'en fiche. Cette hypothèse. En plus, il s'en fiche. Alors l'homme est un être parlant, évidemment. Il est doué de ce langage particulier qu'on appelle la langue, parce que Zorba a son langage, et les oiseaux aussi, mais nous avons ce langage qu'on appelle la langue, et la langue, elle a une sorte de caractère particulier, dont celui de l'inventivité infinie. Alors, il est vraisemblable que pour répondre à la question « Pourquoi y a-t-il le poème ?», sachant que cette question nous aidera peut-être à reformuler et à répondre à la question « En vue de quoi y a-t-il le poème ?», il est vraisemblable que s'il y a le poème, c'est parce qu'il y a, disons, la langue. En effet, la langue, c'est ça que je veux dire ce soir, est inadéquate. La langue, il y a quelque chose en elle qui ne va pas. Et comme nous ne sommes pas subsidiairement des êtres parlants, comme nous ne sommes pas, entre autres choses, des êtres parlants, comme nous sommes par essence des êtres parlants, c'est-à-dire comme la langue est notre propre, le fait que la langue ne marche pas bien, Le fait que la langue ne soit pas très adéquate est un problème extraordinaire, est un problème que pour le coup on peut appeler anthropologique. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. Et là, je m'appuie sur Mallarmé, pas moins que Mallarmé, puisque Mallarmé parlait du défaut des langues. Le défaut des langues. C'est-à-dire que les langues ont des défauts. Alors, comment le dire? Premièrement, nous autres humains, êtres parlants, nous sommes donc doubles. Nous avons le corps que nous disions tout à l'heure avec la détermination par la corporéité. Nous avons le corps, et ce corps est une chair, comme vous l'avez dit tout à l'heure en employant ce mot chair. C'est-à-dire que ce corps n'est pas seulement un corps objectif qu'on peut décrire avec son système d'organes dans une physiologie, disons, objectiviste, justement. Non, le corps est aussi la chair, c'est-à-dire un tissu d'affect. Nous, les hommes, nous sommes, comment dirais-je, des tissus d'affect, ça va, c'est pas mal. Nous sommes nous sommes inlassablement déterminés par notre affectivité. Inlassablement. Par exemple, je ne sais pas, ce soir, quelques-uns d'entre nous sont fatigués. Ben, ils sont traversés par l'affect de la fatigue. Quelques autres sont inquiets. Et c'est donc quelque chose comme l'inquiétude qui les affecte. Quelques autres ont l'angoisse, quelques autres la joie, que sais-je encore. Et chacun, d'ailleurs, n'est pas l'otage que d'un seul affect, n'est-ce pas, mais est saturé d'une vie affective infiniment complexe, qui est la temporalité même de la chair. Nous sommes des sujets affectifs. Et la réalité que nous sommes, c'est notre affectivité. Avant toute chose, nous sommes des êtres d'émotion, de pathos, de sentiments. Nous nous sentons vivre nous-mêmes, par exemple. Il n'y en a pas un autour de cette table qui ne se sente pas vivre. D'ailleurs, heureusement qu'il se sent vivre, parce que c'est en cela qu'il est vivant. Et vous, madame, qui vous voulez vivre toujours, vous voulez vous sentir vivre par ce fait même. La pierre, le verre, la table, la bouteille sont, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas en ceci qu'ils ne se sentent pas. Être. Nous, nous nous sentons être, nous autres. Et c'est parce que nous nous sentons être que nous sommes des vivants. Ce que n'est pas la table, la pierre ou la bouteille. Nous sommes des vivants, nous nous sentons être. Notre détermination la plus fondamentale, c'est le sentir de soi. Notre essence de vivant, c'est le sentir de soi, c'est-à-dire le sentiment, c'est-à-dire l'affectivité. Est-ce que ce vocabulaire est clair? Je veux qu'il soit clair parce que c'est donc la base de l'anthropologie que je fais mienne pour essayer de comprendre pourquoi il y a le poème. Nous sommes des êtres sentants, des êtres affectés, des êtres saturés d'émotions, des êtres de part en part pathétiques. Et telle est notre essence charnelle. Eh bien, la langue est en défaut par rapport à notre affectivité. C'est simple comme bonjour. On ne peut pas faire plus simple. La langue est inadéquate à notre affectivité. Ou pour le dire d'une façon rimante, ça fait comme ça un peu prosodie, l'affectivité et la verbalité sont hétérogènes l'une à l'autre. Boum, ça c'est un énoncé que je produisais à mes étudiants. Alors ils notaient textuellement deux, n'est-ce pas, je retrouvais ça dans toutes les copies. L'affectivité et la verbalité sont hétérogènes l'une à l'autre. Alors je vais donner des tas d'exemples très très simples, parce que ça a l'air savant et c'est de pur bon sens, n'est-ce pas? Je ne sais pas, j'ai faim. Voici l'affect dont moi tout de suite je suis traversé, j'ai faim. Mais si je dis j'ai faim, personne ne voit ce dont je parle. Précisément parce que cet affect de la faim qui fait ma chair propre, n'est-ce pas, il n'est pas représentable par le mot « j'ai faim ». Précisément parce que le mot « j'ai faim », il est inadéquat à cette faim que j'éprouve. En l'occurrence, t'as faim, t'as très faim, t'as une petite fringale, tu meurs de faim, il y a des gens qui ne sont pas nourris sur Terre, à peu près 800 millions d'entre nos phases humains ne sont pas nourris sur Terre, c'est pas tout à fait la même chose que de n'avoir pas touché à l'apéritif, par exemple. Donc, le degré de la faim, l'intensité de la faim, la densité de cette épreuve de soi de la faim, ne sont pas nommables du tout dans l'énoncé « j'ai faim ». qui est absolument inadéquat à l'affectivité dont il s'agit. Si j'ai du chagrin, il en va de même, naturellement. Moi, j'ai du chagrin. Bon, ma voisine aussi, peut-être, ou peut-être pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon chagrin est rigoureusement indicible par le mot chagrin. Et d'ailleurs, que du coup, aussi bien, mon chagrin est à ce point singularisé par ma chair propre, n'est-ce pas, que mon chagrin n'a strictement aucun rapport avec le chagrin de ma voisine, qui d'ailleurs ne se laisse pas dire non plus par le mot chagrin. Le mot chagrin est en défaut par rapport à l'affect du chagrin. Et puis il en va de même de tous nos affects. La joie, la mélancolie, l'impatience, la tristesse, la paresse, la fatigue, l'anxiété, l'attente, que sais-je encore. Tout ce qui fait de nous des êtres charnels, c'est-à-dire pathétiques, c'est-à-dire sentimentaux, c'est-à-dire émotionnels, est mal dit par la langue. Parce que la langue n'a que peu de mots, très généraux, très conceptuels, pour dire des événements qui sont au contraire très concrets, très singularisés et très charnels. Est-ce que je me fais comprendre ? Si je me fais comprendre, j'ai presque plus rien à dire, parce que la suite va de soi.
Quelle serait la définition ?
Je vais juste encore dire deux, trois bricoles. C'est-à-dire, la langue est inadéquate à dire l'affectivité qui nous constitue essentiellement, d'une part. Mais d'autre part, la langue est également inadéquate à dire, disons, les apparences du monde auquel nous sommes confrontés. C'est une deuxième inadéquation, c'est-à-dire que la langue, ça ne va pas du tout. Si la langue dit « voici une pierre », d'accord, mais vous voyez bien que cette pierre, en sa singularité absolue, en sa densité particulière, en son matériau à nul autre pareil, etc., etc., en sa couleur qui ne peut pas être dite, cette pierre ne se laisse pas saisir par le concept de pierre, c'est aussi simple que ça. Quand je dis « voici une pierre », je n'ai plus qu'un concept, je n'ai pas une présence. Quand je dis un chemin, quand je dis cette rivière, cet arbre, il est évident que je manque rigoureusement ce dont il s'agit dans la singularité absolue de la chose même que j'ai devant moi. Donc il y a deux inadéquations. L'inadéquation des mots à l'affectivité, l'inadéquation des mots, disons, à l'extériorité du monde, c'est-à-dire à l'ensemble des choses qui sont dispensées par le monde. Bon, ça fait quand même lourd. Nous autres, nous parlons mal. Nous autres, les humains, nous parlons mal. Mais nous parlons mal parce que nous parlons. La langue est si mal faite que, parlant, nous ne savons pas dire l'affectivité dont nous sommes faits et nous ne savons pas dire le monde dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi la poésie existe. Ou du moins le poème. Le poème est la tentative pour compenser le défaut de la langue, les deux défauts que je viens de dire de la langue. Le poème est la tentative pour user du langage, puisque c'est la seule chose dont nous puissions user, mais de telle façon qu'il se recourbe, il se transforme, et dise moins mal l'affectivité humaine, et dise moins mal les choses extérieures du monde. Il y a un propos d'André Breton, là aussi, que je citais chaque année aux étudiants de première ou deuxième année. André Breton, le poète français du surréalisme et tout. La médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas de notre pouvoir d'énonciation ? C'est très bien comme phrase. La médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas de notre pouvoir d'énonciation ? C'est très bien comme phrase parce qu'en fait, c'est une phrase qui donne à penser l'origine du mal. C'est-à-dire que tout va mal, quoi. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce soir. Tout va mal, puis d'ailleurs avant-hier c'était pareil, puis il y a 10 ans c'était pareil, puis depuis qu'on existe c'est pareil, et puis c'est certain que ça va continuer. Tout va mal. C'est-à-dire que nous habitons une vallée de larmes, et ça commence à de plus en plus mal tourner, bon, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a mal parlé. Parce que nous parlons mal. Parce que nous ne faisons que ça, parler, nous qui sommes des êtres parlants, et dont la langue est un caractère essentiel. Mais c'est précisément parce que ce n'est pas un diable qui œuvre à travers nous. En tout cas, d'aucuns peuvent penser que c'est un diable qui œuvre à travers nous. Mais les poètes ne pensent pas ainsi. Ou pas tous les poètes, ou peu de poètes pensent ainsi. C'est la langue qui se méprend, par sa généralité exagérée, sur notre affectivité, qu'elle est incapable de dire. Et c'est la langue qui se méprend de surcroît sur l'univers des choses qu'il y a au monde, qu'elle ne sait pas dire non plus. En somme, la langue nous oblige à mal dire ce qui est. Et comme elle dit mal ce qui est, juste d'un jeu de mots, elle fait de nous autres les humains des maudits. Nous sommes maudits, c'est-à-dire nous sommes maldits par la verbalité. Notre affectivité est maldite parce que la langue est inadéquate, est hétérogène, est trop générale, trop abstraite, manque de singularité. Le monde est maldit et c'est pourquoi il est blessé par la langue qui ne sait pas bien le dire. Nous sommes maudits par notre langue et le monde est maudit par notre langue. Voilà pourquoi le poème existe. Le poème est le résultat d'un vouloir vivre extraordinaire qui investit celui qui veut parler mieux. Il y a quelqu'un qui veut parler mieux ou qui veut parler moins mal, qui veut, comment dirais-je, tordre le langage pour qu'il se rende un peu adéquat à l'affectivité, qui veut métamorphoser la parole pour qu'elle se rende un peu adéquate à l'extériorité du monde, celui-là, on l'appelle le poète. Et ce qu'il dit, ben, on appelle ça un poème. Alors, je vais encore ajouter une chose, si j'espère que je n'ai pas trop parlé.
Mais... C'est bon. Encore un quart d'heure, si vous voulez. Encore un quart d'heure, si vous voulez. Mais
ah bon, oui, pas plus, j'en ai pour 5 minutes. Mais c'est un point que je trouve important. C'est pour dire, pour répondre, enfin... Alors maintenant nous y sommes, n'est-ce pas? Nous avons compris pourquoi il y a un poème, c'est parce qu'il y a un effort humain pour dédire ce que la langue dit mal, pour dédire la langue. En fait, le poème consiste à dédire notre malédiction. Il s'agit de dédire le mal dit de la langue. Autrement dit, il s'agit d'espérer bien dire. Parce que si on commençait à dire convenablement les choses, ce serait une bénédiction. Et c'est-à-dire que tout l'univers serait béni. Et mon chagrin lui-même, étant bien dit, serait béni, n'est-ce pas? Peut-être même il se convertirait en joie. Voilà pourquoi il y a un poème. Et voilà ce que, au moins utopiquement, le poème peut. Il peut démaudire la condition humaine. C'est-à-dire, il peut dédire le maldit de la langue. C'est-à-dire, il peut espérer bien dire ce qui reste à dire. Alors, les 2 minutes ou 3 que je veux encore utiliser, c'est comment s'y prend-il? Eh oui. Parce que c'est pas le tout, c'est un vœu pieux pour le moment. Alors c'est simple en fait. Et tout le monde le sait. Et c'est pourquoi les enfants aiment les poèmes, etc. Si je dis à une personne que j'aime, je t'aime, ben c'est pas clair. C'est pas clair, peut-être même c'est une comédie. Et en tout cas, il se peut bien que cette personne ne s'y retrouve pas, ne s'en trouve pas comprise, ne s'en trouve pas rejointe, atteinte, ne s'en trouve pas aimée. Alors pourquoi ? Ben, toujours pour la raison que j'ai dite, c'est-à-dire que cette généralité du « je t'aime », ce concept d'amour est absolument inadéquat à l'affectivité, au bouleversement émotif que je prétends éprouver. Et alors le poète dit autre chose. Précisément parce qu'il veut sortir de cette malédiction, de cette insuffisance, de ce défaut, de la généralité du « je t'aime ». Et alors il dit, je cite Baudelaire, « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. » Et Baudelaire continue comme ça, n'est-ce pas? C'est l'un de ses grands poèmes, des fleurs du mal, celui qui a pour titre Le balcon. Il ne dit pas bêtement, si je puis dire, je t'aime, il dit ce que je viens de réciter. Et brusquement, l'affectivité passe, ou en tout cas, passe moins mal. Brusquement, ce qui ne se laissait pas dire, ou ce qui était mal dit, se trouve bien, bien, bien dit. Et il y a une sorte de bénédiction qui vient de la parole du poète sur la personne à laquelle il s'adresse. Comment cela s'est-il fait? Eh bien, cela s'est fait par le son des mots. C'est-à-dire que quand je dis je t'aime, par exemple, quand je dis j'ai du chagrin, ou j'ai mal aux dents, ou j'ai envie de dormir, ou j'ai faim, les énoncés sont généraux, comme je l'ai beaucoup dit, ce sont des énoncés conceptuels qui ont un trop grand degré de généralité par rapport à la singularité de mon affect, d'une part, mais d'autre part, les énoncés sont purement conceptuels. C'est le concept de fin, j'ai faim, c'est le concept d'amour, je t'aime, c'est le concept de chagrin, j'ai du chagrin. C'est-à-dire des énoncés abstraits. Et grâce à la sonorisation des vocables, c'est ça le problème, c'est la sonorisation des vocables. Grâce à la sonorisation des vocables, il est possible de délester les mots de leur dimension conceptuelle. Il est possible de congédier, au moins partiellement, la part du concept dans le mot. Grâce à la musicalisation de la parole, est-ce que je me fais comprendre ? Il est possible d'abaisser, d'amuir la dimension conceptuelle des mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un poème est fait, même s'il n'est pas que de versification, un poème est fait d'alternance entre des syllabes accentuées et des syllabes sourdes. Un poème est fait de mesures plus ou moins régulières qui partagent, disons, les parties de l'énonciation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mesures métriques. Bon. Un poème est fait quelquefois de rimes et de strophes de telle façon que non seulement on le mémorise, comme je disais tout à l'heure, mais que les mots se trouvent chargés, en quelque sorte, de sonorités qu'on entend pour elles-mêmes. Et ces sonorités qu'on entend pour elles-mêmes, il y a aussi les assonances, il y a aussi les répétitions, il y a aussi les anaphores, bref, il y a toutes sortes d'événements linguistiques que les spécialistes savent nommer, n'est-ce pas, qui permettent de sonoriser les vocables, qui permettent de musicaliser la parole. Et c'est cette sonorisation des vocables qui congédie autant qu'il est possible la part abstraite des mots, c'est-à-dire la part conceptuelle des mots. Et du coup, il est possible de réincarner les mots dans la parole de celui qui les énonce. Il est possible de les voûter, de les aggraver, de les rendre charnels. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc mieux chargés du pathos affectif qu'il s'agit de dire. Si la poésie existe, c'est parce que les humains souffrent de l'inadéquation de leur langue à leur affectivité. Et ce que la poésie peut, c'est recharger la langue des affects qui nous constituent grâce à la sonorisation des vocables. Voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup.
C'est très beau.
Je ne sais pas
pourquoi
tu parles. Merci beaucoup. C'était vraiment très bien. Comment rebondir ?
Comment faire ? Suivre.
Tellement handicapé par nos mots.
Alors, bah oui, c'était bien.
Moi, ça me met des mots justement sur un peu ma difficulté dans mon travail actuel. Je parlais de la chair, moi, je suis très touché par ce concept de chair. Je trouve qu'il y a un truc important qui habite beaucoup de projets de l'Ethno Café depuis longtemps, et j'essaye un peu désespérément de comprendre, notamment enfin, un auteur qui a un peu ramené ça, qui l'a amené dans mon champ, qui est Edmond Husserl, en fait, où il parle de la chair. Husserl, pour le coup, il a une écriture, donc c'est un mathématicien, il a une écriture très riche, très raide, très, très conceptuelle. Ses livres, c'est des concepts après concepts, on étouffe complètement. Et en même temps, enfin, en lisant Husserl, on sent que le trésor est juste là, en fait. En le lisant, on sent ce que vous dites sur ce handicap des mots, cette difficulté des mots, et je pense que plein de gens se coltinent, se fracassent sur cet auteur, parce qu'on sent le trésor, mais en même temps, on ne comprend pas. Et il y en a un qui passe juste après, c'est Merleau-Ponty qui reprend, et finalement, c'est Merleau-Ponty qui a rendu un peu plus célèbre ce concept de chair. Il parle de la chair du monde, et souvent, je me surprends à dire qu'il a poétisé un peu l'œuvre du Serle, et on sent qu'il, par une écriture un peu plus... un peu moins conceptuel, dire que percevoir, c'est flotter dans l'être avec une autre vie. Et donc on sent que par ce langage-là, on comprend un peu mieux, même si on ne comprend pas tout. Mais,
Et donc, enfin, ce que vous venez de dire, ça m'éclaire sur cette, comment exprimer ce que c'est que la chair, cette chair qui est commune à nous tous, cette chair qui nous fait ce corps commun là. Et enfin, je trouve ça très éclairant. Et du coup, par rapport aux patients. En fait, moi, dans mon travail, et puis je pense que tous, on ressent cette difficulté des mots face à un patient ou face à un médecin. C'est-à-dire qu'on est vraiment... quand je suis en face de moi, quelqu'un qui souffre, on ressent ce handicap des mots. On est... et du coup, le travail qu'on fait, notamment dans les forêts, ces lectures de poèmes, je trouve que ça ouvre... je ne sais pas si on pourrait parler de médiation, mais ça ouvre un espace... qui est complètement ouvert puisqu'il n'est pas du tout conceptuel et comme un peu une bouée à la mer désespérée, enfin, on tente la chance quoi, on va lire un poème ensemble et il y a des possibilités, enfin, ça ouvre des possibles et notamment des possibilités thérapeutiques probablement pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire pour le soignant, pour le soigné.
Non, mais c'est pour ça que votre expérience m'intéresse énormément parce que moi aussi j'ai donné ma foi au poème en fait. Et c'est ça que j'ai enseigné toute ma vie, au fond, dans ces universités. C'est de persuader, de proposer aux jeunes gens l'hypothèse que le poème, ce soit peut-être pas le salut, mais quand même la voie d'accès à la démalédiction, la voie d'accès aux soins, vous diriez peut-être, à la voie d'accès. Parce que si vous voulez, encore une fois, notre aliénation, notre peine, notre malheur et tout le malheur du monde vient de ce que nous parlons mal. D'ailleurs, il faudrait réfléchir sur la raison pour laquelle la langue dont les hommes sont dotés est à ce point inadéquate à ce qu'il faudrait dire. Ça, c'est encore un autre problème, c'est le problème de l'origine du langage qui fait que nos langues à nous sont si en défaut de vérité. Mais enfin, laissons cette affaire. Ce qui est vrai, c'est que... Enfin, l'idée que les poètes défendent, c'est celle que André Breton disait, n'est-ce pas, la médiocrité de notre univers, mais c'est-à-dire notre aliénation de tous les jours, nos impuissances, nos insuffisances, nos inhibitions, notre détestation de nous-mêmes, notre haine de tout et de tous, notre colère, etc., et notre terreur devant le fait qu'il faut continuer d'exister, etc., etc., bon, bref, vient de ce que nous parlons mal. En tout cas, c'est l'hypothèse des poètes. Et elle est sérieuse, puisque, encore une fois, c'est la langue qui nous surdétermine, qui nous constitue, qui nous ouvrage. Vous comprenez bien que si, c'est la langue qui configure notre monde, n'est-ce pas? Quand quelqu'un qui apprend une langue étrangère, c'est parce que soudain, cette langue étrangère lui ouvre un autre monde. Et, n'est-ce pas? Le monde n'est donné que par les mots. Alors si vous parlez chinois, vous avez devant vous un autre monde que si vous parlez breton, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est pourquoi les polyglottes ont une chance formidable, c'est parce que, somme toute, ils peuvent changer de monde au fur et à mesure qu'ils changent de langue dans la journée. Bon. Et alors, les poètes sont à la recherche d'une langue, par la sonorisation des mots, qui ouvre le monde en vérité et qui libère l'affectivité de son impuissance à se dire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas ça le soin dans votre vocabulaire?
J'aurais justement une question sur votre lexique, sur le mot dire. Parce que pour le coup, quand je pense le mot dire, mon concept personnel du mot dire, c'est se comprendre, c'est-à-dire émettre une idée, que l'idée soit reçue, comprise, du moins identique. Qu'il y ait une idée de réciprocité, de miroir, et qu'en fait, il y a un point A avec la possession d'une idée qui apparaissent chez l'autre identique. Et je trouve hyper intéressant cette bénédiction de la poésie et cette réappropriation du langage, etc. Mais est-ce qu'il est possible de dire l'affectivité au sens de on dit mieux, c'est vrai, mais du coup dire, quand bien même le poème y arriverait parfaitement, l'émotion au point A n'arrivera jamais au point B puisque les émotions, comme vous l'avez dit, sont singulières et chez chaque personne sont différentes. Donc c'est ça que j'aimerais savoir chez vous, c'est dire, la poésie dire, est-ce que c'est comme moi pour vous dire, ça veut dire reproduire exactement ou ça veut dire autre chose?
Je vous remercie sur ça, c'est une excellente question parce que ça me permet d'en rajouter une petite couche. C'est-à-dire que dire poétiquement, parce que dire en général, je ne saurais pas tout de suite le signifier ce que... Dire poétiquement dans la pensée que j'ai proposée ce soir, fondamentalement, cela veut dire dédire. C'est-à-dire qu'il faut... Le poète fait le travail du négatif. C'est-à-dire que la langue a toujours déjà construit positivement notre aliénation, notre crétinerie, notre monde abstrait, notre vulgarité, notre méchanceté. La langue a déjà positivement fait un travail extraordinaire qu'on appelle la civilisation, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est l'œuvre de la langue. Et le poète est celui qui défait ce que la langue a fait. Et dire poétiquement, c'est donc dédire le maldit de la langue. C'est démaudire. Alors il s'ensuit quoi ? C'est pourquoi votre question m'intéresse beaucoup. C'est parce qu'elle permet de conduire à la différence entre poésie et poème. C'est-à-dire que le dédire, qui est l'acte poétique par excellence, je viens de me faire comprendre, n'est-ce pas ? Il aboutit à quoi ? Il aboutit à un poème. Mais un poème, qu'est-ce que c'est ? Aussi riche soit-il de l'expérience, de la mémoire dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'en reste pas moins qu'il est la coagulation de l'acte du dédire. Il est le reliquat, la retombée de l'acte du dédire. Il n'est à son tour qu'une chose et qu'une œuvre déjà faite. Eh bien, c'est l'esprit de poésie qui va devoir défaire le poème lui-même. D'accord. C'est-à-dire que le poème est toujours l'échec de la poésie. Le poème est toujours la retombée de l'effort de poésie. Et c'est une bonne chose, puisqu'il est la retombée du travail du négatif, c'est-à-dire de l'effort de dédire ce que la langue dit si mal. D'accord ? Mais il n'en reste pas moins qu'en tant qu'il aboutit à une forme, ce qu'on appelle une œuvre, eh bien le voilà qui participe de la culture universelle, c'est-à-dire peu ou prou de l'aliénation universelle. Et à nouveau, il faut que la poésie s'empare du poème pour le dédire à son tour. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est une espèce d'étape dans un chemin.
Oui, ok. Mais quelqu'un comme Bergson dit ça quelque part, c'est formidable. Autrefois, j'avais toutes les citations en esprit. Ce que le concept a fait, nous pouvons le défaire et nous entrons alors en contact immédiat avec la réalité. Là, c'est formidable. Ce que le concept a fait, c'est ce que la langue a fait à tout moment, n'est-ce pas ? Nous pouvons le défaire. Le pouvoir défaire, c'est la poésie. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps.
Vous avez parlé moins que vous auriez pu. Et Patricia me dit qu'elle a le cerveau qui est tellement en ébullition qu'elle a besoin de prendre l'air.
Il faut que je rentre. J'ai pas un grand chemin, mais je tiens à rester en vie là. Ok.
Ça va ?
Allez. Bonsoir.
Le fauteuil marchand, il y a une le fauteuil
marchand. Heureusement qu'il est là, sinon...
Je vous remercie, hein, vous nous avez emmené en voyage. Et ça m'a donné un éclairage, moi, sur comment la poésie rentre dans mon cabinet. Sur le principe du mot j'ai faim. Bon, bah, docteur, j'ai mal.
Exactement.
Et donc, bon, bah, vous avez mal, je vous donne un doliprane. Et vous avez mal, alors racontez-moi cette douleur.
Ah, c'est ça, impossible.
Et alors, bah, si. On, bah, justement, comment on invite l'autre à être poète de sa vie ?
Oui, c'est ça. Être poète à ce moment-là.
Oui, mais on s'en rend pas très vite, c'est mon con. Et quand le malade arrive à raconter ou à chercher ses mots pour dire, en fait, il y a trois quarts du soin qui est pratiqué. Le patient ressort des fois plus léger. Mais c'est comment on l'accompagne à mettre ses mots et comment il y a une naissance qui se fait en mettant les mots et comment l'espace entre le patient et le médecin est habité par des ponts. Et du coup, je me dis, en tant que soignant, c'est une autre visée du soin. Racontez-moi votre.
Alors est-il vrai, par exemple, est-ce que je raconte, est-ce vrai ? C'est-à-dire, si votre patient réussit à dire un peu son mal, est-ce que ce n'est pas
parce qu'il réussit à se défaire de ses préjugés, de ses réflexes intellectuels. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il défasse, disons, sa parole ordinaire, son discours ordinaire, ses créances ordinaires, pour réussir à vous dire son mal?
Alors oui, mais je sais que moi je me pose un peu moins une question cérébrale, j'accueille plus. mais je sais pas, des fois, mais en fait, ça me fait penser à une patiente qui vient avec toujours ses douleurs chroniques et je prenais pas le temps de l'écouter. Et un jour, je lui ai dit, mais racontez-moi cette douleur. Alors je sais pas ce qui s'est passé en elle pour qu'elle puisse le faire à ce moment-là. Mais pense à ça. Bon, après, je fais une pratique aussi où je fais des fois en homéopathie, donc on demande les émotions, on creuse plus l'interrogatoire, on n'est pas que dans le symptôme. En fait. On cherche à faire du lien plus large que le... Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, je me dis, c'est une belle visée que d'inviter le patient à être poète de sa vie aussi. Mais d'ailleurs, c'est... Non, mais c'est...
En fait, enfin, je ne sais pas, j'ai peut-être pas bien compris, hein. Mais le fait de dire un mot j'ai mal, c'est un concept qui n'est pas bien d'après vous. Mais dire autour, prendre des mots pour dire ce mal, c'est une musique concrète, c'est un agencement. Et c'est avec cet agencement de concept en fait.
Ah oui, mais les concepts sont relativisés par la musique.
Oui, mais il y a un agencement de concept.
Oui, mais relativisés par la musique. C'est-à-dire que les mots se rendent plus habités, plus lestés par la fête, par le mal, par exemple, plus lestés d'affectivité dès lors qu'ils sont musicalisés, vous voyez. Mais c'est tout simple, c'est comme... Excusez-moi, je ne peux pas vous parler parce que...
C'est
comme la musique, vous voyez.
Oui.
La musique, parce que c'est quand même une curiosité, la musique. Enfin, bon... Combien avons-nous de mots pour dire nos sentiments? Le chagrin, la peur, la terreur, l'épouvante, la fatigue, l'amour, le... Bon, admettons, on a 300 mots pour dire le sentiment, puis ça dépend des langues, sans doute. Mais ce sont des millions de musiques qui se composent chaque année. Pourquoi? Parce que la musique est adéquate à notre tissu affectif, à notre chair propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le langage, il s'agit de le musicaliser pour qu'il perde de sa généralité abstraite et qu'il consente à être habité par la singularité du sujet pathétique. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je me fais comprendre?
En même temps, il y a un peu de notes de musique aussi. Là, quand vous parlez de concept, vous parlez d'un mot, mais en fait, on parle d'un concept et d'un mot, mais on explique toujours par d'autres mots, des adjectifs. Enfin, il y a la richesse de la langue qui n'est pas que poème et qui peut expliquer aussi, qui peut imaginer.
Oui, j'ai été trop sévère avec la langue.
Sévère, hein. C'est très négatif. Hein.
Il y a raison.
J'ai remarqué, hein, vous êtes très sévère et très négatif parce que vous n'avez parlé du chagrin, de la peur, vous n'avez pas dit joie.
Si, j'ai dit l'amour.
Ah, vous avez dit l'amour.
J'ai dit joie aussi.
Et joie aussi?
J'ai entendu joie, mais je ne me suis pas abandonné.
Non, vous êtes bien avec.
Mais ouais. Ouais, ça me rend d'autant plus curieux pour l'ethnocafé aussi parce que moi, c'est ma vision du soin du coup qui est complètement remise en question. Parce que ça revient avec la définition de dire que je questionnais tout à l'heure. Parce que pour le coup, j'ai une vision du soin en tant que soignant qui a pas eu beaucoup besoin d'être soigné. Enfin, je suis globalement en bonne santé, j'ai 19 ans, donc j'ai pas beaucoup de problèmes. Et en fait, ma vision du soin, c'est comprendre un problème physiologique et scientifique et y trouver une solution, qu'elle soit chimique, musculaire, voilà. Et pour moi, les méthodes de soins, justement, c'est des méthodes d'action sur un domaine objectif qui est le domaine scientifique et qui est le domaine mathématique. Et du coup, je trouve ça vraiment passionnant que d'intégrer dans ce processus de guérir la souffrance et de guérir les maux, de les comprendre et de soigner, quoi. Qu'on intègre aussi la volonté de transmettre l'affect et transmettre le fond des choses que l'on ressent à tout prix. Là où en fait, on pourrait dire que le soin dogmatique que j'ai dans la tête, qui est le soin scientifique, pourrait se passer de ça, mais éternellement en fait. C'est-à-dire, on pourrait même imaginer un monde apocalyptique, un monde complètement scientifique où en fait on a une machine qui scanne les cellules, c'est là, angine, hop. Doliprane, enfin voilà, en fait on pourrait être imaginer un monde où, selon ma définition du soin, pourrait limite se passer d'humain en fait. Et c'est là que ma définition du soin s'écroule sur elle-même, parce que en fait le soin n'est pas que justement répondre à un problème qu'on pense objectif et scientifique. Et ça questionne donc le soin, et ça questionne aussi la question de problème, de souffrance, de maladie, ça questionne toutes ces choses-là. Et ouais, j'ai hâte du coup de revenir en fait, parce que je sens que en fait je viens juste de découvrir ce qu'est le concept du Lello Café en réalité. Mais ouais, passionnant, c'est clair.
Moi, je peux pas totalement adhérer à ce que vous dites sur la langue, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission possible, ou peu de transmission possible, si la langue fait défaut, comme vous le dites. Et quand, je sais pas moi, quand on énonce le théorème de Thalès, où est l'affectivité, où est... C'est une transmission stricte d'une découverte scientifique, enfin, d'une chose scientifique. Et où est la poésie là-dedans? A-t-elle un rôle? On peut faire toujours un poème sur le théorème de Thalès, hein, ça, beaucoup y arriveront, mais est-ce que ce poème a vraiment une utilité? Est-ce que la langue est si insuffisante dans ce cas-là qu'on ne puisse pas transmettre, je parle du théorème de Thalès, mais je pourrais parler de tout ce qu'il y a de mathématiques et de physique aussi, de la physique, de la chimie, voilà.
Oui, mais je vous remercie, parce que c'est la même objection que ma voisine, qui vous m'en voulez d'avoir incriminé par trop la langue. Et vous avez raison, parce qu'elle a une telle plasticité, qu'elle rend possible la transmission, donc du coup la confiance, donc du coup la suite des générations. Donc, je veux bien me rendre à votre... comment dire, équilibre, sagesse, loyauté à l'endroit de d'abord pour commencer, je vais dire du bien de la langue maintenant, c'est-à-dire que les mots nous donnent ce qu'ils nomment. Tout à l'heure, je m'en suis pris au mot Pierre en disant que c'était un concept qui n'avait rien à voir avec la singularité de cette chose qui s'appelle, que j'appelle une pierre. Mais d'un côté, il faudrait commencer par dire que c'est grâce au mot pierre que j'aperçois la pierre. Donc, il y a une positivité de la langue, et vous dites, c'est grâce au mot du théorème de Thalès que je peux le transmettre de génération en génération, ce qui constitue une tradition. Donc, je fais machine arrière, il faut mettre de l'eau dans mon vin, il faut y aller doucement, et il n'en reste pas moins. Enfin, la langue nous donne un monde, la langue nous donne une tradition, la langue nous donne notre humanité. Donc il n'y a pas lieu d'accuser quoi que ce soit, ce serait suicidaire en quelque manière d'accuser sa propre essence d'être parlant. Mais il n'en reste pas moins que je pense, avec beaucoup des poètes que j'ai en esprit, que beaucoup de notre aliénation vient de nos préjugés, vient de nos habitudes intellectuelles, vient de nos traditions ethniques, familiales, culturelles, bref, vient d'une civilisation, bref, vient d'une transmission aussi de discours innombrables dont nous héritons chacun, et qui canalisent nos désirs, obscurcissent notre conscience, brident notre vouloir. La poésie est une simplification de la conscience. La poésie est un usage des mots qui essaie de délester la conscience de tous les préjugés reçus, de toutes les traditions coagulées, de toutes les pesanteurs familialo-ethno-linguistiques. Vous voyez ce que je veux dire ? La poésie aime les mots,
elle aime la langue. Et vous avez raison de m'alerter sur le caractère trop durci, simpliste de mon propos. La poésie aime la langue, mais elle en use de telle façon que la conscience se trouve allégée de codes qui ont bridé la conscience. Est-ce que cette formulation vous conviendrait moins mal?
Oui, oui, oui. Ça me convient. Enfin, c'est ce que je voyais quand même dans le poème.
Oui.
Oui.
Le poème, c'est une simplification, c'est-à-dire que le poème rend l'existence à sa transparence avec elle-même, c'est-à-dire que les subjectivités que nous sommes sont toujours divisées, mais elles sont divisées par quoi? Sinon par les représentations qui nous séparent de nous-mêmes. Tandis que le travail du négatif du poème, c'est le travail qui dé-représente, c'est le travail qui nous décharge du poids des représentations admises.
Peut-être que c'est le travail qui surreprésente, parce qu'on peut faire des poèmes, enfin on peut penser poétiquement plusieurs poèmes sur un seul sujet. Si on prend les poèmes sur l'amour, bon, il y en a des milliers, et ils sont tous différents, ils nous donnent des sonorités différentes, ils nous donnent des sentiments différents aussi. Ouais. Je ne sais pas bien comment dire.
Oui, c'est qu'ils peuvent, ça peut être, le poème va renouveler à chaque fois, en fait, les idées.
Il va laver le regard. Nous avons le regard encombré par des habitudes, des préjugés, des codes, nous avons le regard lesté. Voilà. Je pense que la poésie lave la langue.
Ce qui est d'autant plus étonnant aussi, c'est que la poésie reste, malgré tout dans la culture, un domaine ultra codifié et ultra bridé sur certaines périodes, certains dogmes culturels, certaines traditions qui ont pu quand même s'installer. Malgré la définition que vous proposez, peut-être en conscience de la définition que vous proposiez, ou peut-être sans cette conscience-là, malgré tout... on observe des traditions de poèmes, justement, cet objet dont vous parliez, qui est un artefact échoué dans une communication désireuse d'être faite, mais dans l'échec permanent, en fait. Moi, je trouve étonnant quand même que ce... Enfin, je trouve amusant, en fait. Je trouve qu'on touche une essence humaine quand on observe ça. Qu'on observe ce désir d'infini, et cette contradiction dans l'artefact qui retombe quand ça sort, en fait. Enfin, moi, ça me... Voilà, pour partager ce stimuli-là.
En même temps, la situation n'est pas la même selon les langues. Mm-hmm. Le français n'a pas trop de chance avec le poème.
Ah, bon.
Non, parce que, pour une raison simple, c'est que le français est une langue peu accentuée. Quand vous allez en Italie, par exemple, vous êtes assis à la terrasse d'un café, à la place Navone, admettons, et alors, ça fait déjà une semaine que vous êtes en Italie, hein, et vous entendez d'autres touristes dans votre dos qui produisent un son, c'est complètement gris, monotone et égal à soi.
C'est
du français. C'est du français. Vous étiez déjà habitué à la sonorisation extraordinaire de l'italien pendant une semaine, et tout d'un coup vous entendez un truc couleur d'ardoise, un peu comme ça, voyez, lumière d'Île-de-France, hyper tempérée, enfin, sans accent du tout, ça c'est le français. Or, la sonorisation des vocables dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le poème, grâce au rythme, aux rimes, grâce à l'alternance des fortes et des longues et des brèves, bon, etc., grâce aux répétitions, la sonorisation des vocables, il lui faut précisément un terrain linguistique qui rende possible cette musique. Vous voyez ? Par exemple, vous entendez l'arabe, alors ça c'est une langue nativement poétique.
Oui.
Les personnes qui parlent l'arabe, quand elles se disent bonjour dans la rue, on a l'impression qu'elles s'engueulent tellement. Il y a une puissance oratoire extraordinaire, n'est-ce pas ? Il en va de même de l'hébreu, qui est une langue merveilleusement accentuée, n'est-ce pas ?
l'anglais, l'allemand, pour des langues plus proches de nous, sont infiniment plus accentués que le français. De telle sorte que la poésie française est sous le couvert de la conversation, et sous le couvert de la civilité française, de la tenue de bonne compagnie. Et que les grands poètes français sont rares. Ils sont d'autant plus grands qu'ils sont rares, et du coup ils ont une signification européenne tout entière. Mais ils sont rares parce qu'ils doivent lutter contre l'espèce de monocordie, de monotonie de la langue française, de douceur grise de la langue française. Tandis que si vous allez, en Égypte, ou en Irlande, ou au Japon, la poésie, c'est les eaux courantes, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une institutionnalisation rigidifiée, c'est un jaillissement continu, n'est-ce pas ? Et au Japon, tout le monde écrit le haïku mais toute la journée, c'est-à-dire les journaux japonais en première page, l'équivalent du Figaro ou du Monde, vous avez une dizaine de haïku qui sont là, puis c'est tout. Bon, les langues n'ont pas la même puissance de convocation poétique.
Mais les surréalistes, moi je trouve, ont donné aux mots une musique particulière.
Mais oui.
Dans les écrits des surréalistes, je trouve que c'est assez extraordinaire.
Moi aussi, je suis d'accord. Ouais. Extraordinaire. Et alors là, c'est la dimension politique de votre République du Soin, parce que les surréalistes ont su que cette musique, oui, elle était là pour changer la vie. C'est le mot d'ordre de Rimbaud qu'ils ont adopté, n'est-ce pas ? Il s'y agit d'un projet archipolitique, c'est-à-dire le projet fondamental de la poésie, je ne sais pas si elle le peut ou si elle ne le peut pas, c'est la révolution absolue, c'est la révolution de la vérité. C'est-à-dire, non seulement on va se donner des soins très efficaces, mais de surcroît, les conditions de notre vie en seront changées. C'est le projet surréaliste. C'est le projet surréaliste, c'est le projet rimbaldien, je pense que c'est le projet romantique. Et à mon sens, c'est par là que la poésie est à son meilleur.
Rien à voir. Vous seriez invité dans une école de journalisme, c'est intéressant. Les poètes investissent journalisme. Non,
si vous avez raison, parce que c'est une censure organisée.
C'est ça.
En France, il est absolument interdit, sauf ici, de parler de poésie. C'est... Enfin, je veux dire, c'est tout le monde.
Non, vous allez mettre
Jamais. Puis, vous lisez les journaux.
C'est anti.
On ne parle pas de ces choses-là. Vous regardez la télévision, on ne parle pas. C'est interdit. C'est une censure tout à fait.
On peut même élargir la réflexion par rapport à la censure, à la littérature. Cette censure-là dont vous parlez, poésie, journalisme, on l'observe en littérature, qui est pour moi, enfin c'est mon opinion, sous la pression des idéologies, on n'a pas le droit, si on écrit un livre, de faire autre chose que l'idéologie. Si on veut se rapprocher d'un discours singulier, personnel, intérieur, etc., c'est pareil, c'est... C'est pas
d'accord avec ça. Tout ce qui paraît comme livre sous le nom de roman, c'est du singulier.
Oui, mais c'est faut que ce soit dans l'air du temps, faut que ça se vende, il faut que ça réponde à des critères.
Je sais que tu as besoin de te lancer.
Non, mais déjà. Déjà, merci. J'ai trouvé ça vraiment absolument passionnant.
Ah oui, c'était passionnant.
Et ça pose vraiment des mots un petit peu sur ce que je peux sentir intuitivement aussi dans ce rapport aux soins et au langage. Parce que, oui, pour moi, c'est une évidence. Comment dire, cette langue un petit peu trouée, quoi, voilà, un peu toujours inachevée, toujours en suspens, qui parvient pas à saisir complètement la densité du vivant et de toute cette affectivité qui nous traverse en permanence dans sa manifestation la plus pure, hein. Et l'action, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir à un moment donné réduire cet écart fondamental et après en apparence infranchissable finalement. Moi, je ne parlerai pas de poème, mais de la parole poétique, en tout cas. qui peut proposer une nouvelle manière finalement de s'avancer vers soi, vers le réel, et qui nous permet vraiment en fait de saisir toute cette infinie complexité. C'est-à-dire en fait la question du soin pour moi qui suis thérapeute, ça va être comment la personne va aussi réussir à traduire ce qui la traverse et que cela puisse être vraiment entendu. Comment elle va pouvoir redonner une épaisseur en fait à cet affect qui l'encombre. Et souvent moi je vois comment dire comme beaucoup de personnes qui sont pressées en fait, c'est-à-dire que un langage qui est utilisé qui va être très abrégé, très réducteur, comme s'il y avait un manque d'habitude en fait d'entrer dans un déploiement peut-être un petit peu plus grand, plus ample, d'une parole qui pourrait dire à un moment donné autre chose, quoi. Et donc ma question, c'est pour dire vraiment, pour traduire cette urgence, cette fragilité finalement d'une existence d'une émotion qui est quasiment intransmissible à un moment donné par une langue peut-être ordinaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réinventer une temporalité où cette parole poétique pourrait se déployer? Parce que, voilà, moi, ce que je vois aussi, c'est quelque chose de très compressé aujourd'hui, un petit peu, dans le langage, comme s'il n'y avait plus l'habitude vraiment d'avoir un véritable espace plein entier et dédié, en fait, à ce déploiement minutieux. Et j'ai vraiment la sensation que quelque chose de l'ordre du soin et de la guérison dans ce pouvoir libérateur de cette parole-là qui deviendrait du coup peut-être une parole poétique qui irait... voilà, moi ça, j'ai beaucoup aimé le mot d'amour traduit selon la version de Baudelaire, c'est-à-dire là on a... on a effectivement quelque chose qui vient comme ça s'étirer. Dans une complexité qui prend une consistance complètement différente et voilà, et donc c'est, je vous remercie parce que vraiment ça m'a permis de réfléchir là-dessus et de comment inviter les gens de plus en plus à tirer ce fil pour au lieu d'exprimer un mot ce mot amour qui va être peut-être frustrant finalement malentendu, comment est-ce que on peut ensemble réinventer une temporalité. Je parle de la thérapie, mais à mon sens, j'ai cette sensation qu'elle devrait être réinventée de partout, c'est-à-dire dans tous nos rapports, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient même professionnels. Enfin voilà, sortir effectivement de cette compression de la langue, de cette j'espère que j'ai été claire.
C'est un fait que la temporalité de la musique n'est pas la temporalité, la temporalité de la parole poétique, comme vous dites, ou du poème, n'est pas la temporalité du monde. Et la temporalité de la vie affective n'est pas la temporalité du monde. Par exemple, la temporalité du monde, c'est précisément le mouvement des astres les uns par rapport aux autres qui fait qu'il y a la nuit, puis le jour, n'est-ce pas? La temporalité du monde, c'est l'espace, en fait. C'est la succession des heures telle qu'elle est organisée par le mouvement réciproque des planètes. La temporalité de l'affect, c'est j'ai faim. Et c'est-à-dire que la faim grandit en moi à proportion du besoin. Je mange. Et voici que le temps du manque est donc passé, enfin, et que c'est maintenant le temps de la satisfaction ou de la satiété. Et puis après, c'est le temps de l'indifférence, n'est-ce pas? Parce que je suis repu et que je n'ai pas faim de nouveau. Et puis voici un retour du manque qui est que je vais devoir me nourrir une deuxième fois. La temporalité de l'affect, je vais vous donner un exemple, n'a strictement aucun rapport avec la temporalité du monde, effectivement. Et si une parole poétique pouvait se rendre un peu adéquate à l'affect, il faudrait qu'elle soit elle-même accueillante à cette temporalité particulière, singularisée, charnelle, individuelle, existentiellement vécue, etc. etc. Je suppose donc que vous qui vous, vous occupez à soigner, en fait, à libérer du soin, à... c'est en effet sans doute cela que vous cherchez à faire, c'est à dégager, disons, la temporalité de l'affect de sa clôture, de son enfermement dans la temporalité du monde.
Exactement. Mm-hmm. Merci.
Et en fait, on a accroché sur une balançoire là-haut Socrate. c'est vrai que Socrate, il inspire beaucoup le projet aussi. Alors, je suis pas un grand spécialiste de Socrate, mais ce que j'en comprends, c'est que quand vous dites qu'il faut se délester des concepts, Victoire Rémy, tu dis le travail d'ethnographie, je crois. En fait, pour moi, c'est ça le travail. C'est... Ici, c'est un lieu où on essaye de se délester des concepts sur le soin. Et c'est si difficile humainement pour un humain d'abandonner ces concepts. Parce qu'en fait, dès qu'on se rencontre entre humains, on balance nos concepts. Et ici, même si l'idée, c'est de s'en délester, on ne fait que ça. Enfin, moi, j'arrête pas de parler des concepts. J'adore Husserl, Merleau-Ponty, la chair du monde, tout ça. Et en même temps, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et peut-être pour arriver à une sorte de silence, et peut-être pour rejoindre peut-être ce que tu dis avec mes propres mots, quand il y a un patient qui arrive, se dire non, je ne veux pas du concept de schizophrénie, je ne veux pas du concept de dépression, de l'anxiété. On sort tout ça de la situation. Et Socrate, qui passait son temps dans Athènes finalement à faire un peu ça, à inviter les gens à abandonner leur savoir ou à comprendre. Socrate dit, il parle du médecin d'ailleurs, il dit si le médecin abandonne ses concepts, son savoir, il retrouve une efficacité heureuse. Et cette efficacité heureuse, j'ai l'impression que peut-être que c'est un peu de ça dont on parle, c'est-à-dire que... Et peut-être qu'un des langages, c'est le poème, mais... Que ce silence, ce vide qui est en fait un espace qui s'ouvre, peut-être que si on a pour seule ambition d'être dans ce silence avec le patient, enfin encore une fois cette phrase de Merleau-Ponty, juste avoir l'ambition de flotter dans l'être avec une autre vie, je pense que le soin arrive là. Alors c'est pas vendeur hein, dans des communications médicales. C'est pas vendeur auprès du Conseil de l'Ordre, du coup on est un peu gêné, mais en même temps on sent qu'il y a... C'est tellement simple en fait, c'est simple, c'est...
Mais ça correspond à un besoin, je crois, de tous les côtés, c'est évident.
Mais c'est si difficile.
Oui, parce qu'on n'est pas formaté pour. Mm. On est même formaté pour l'inverse, quoi. Mm. Donc c'est là où se situe le gros problème, je crois. C'est comme pour la poésie. Moi, je sais pas, je suis arrivée en pensant en poésie. Je pensais pas entendre parler de mots. Et en fait, on n'a parlé que de mots. Et ça, c'est ça qui m'a rendu. Parce que pour moi, la poésie, c'est quelque chose de vécu. C'est une chose qui est dans l'air, qui partage, qui se respire, mais qui est complètement humaine et qui n'est pas une construction intellectuelle, et c'est bon. Et effectivement, c'est hyper intéressant de voir l'approche de tous avec des façons de penser complètement autres. C'est super d'avoir cet espace-là pour ça.
Ceux qui n'ont pas parlé veulent parler.
Je pense à Pontalis qui disait les concepts, nos outils d'un jour, rien de plus. Vous vous diriez les concepts, nos outils de quelques minutes.
Encore une fois, il faut que je fasse attention à ne pas être trop dur même avec le concept. Au fond, Bonnefoy disait une chose qui était même bouleversante à la fin de sa vie. Il disait il faut pardonner le concept. C'est très beau ça. Yves Bonnefoy. Il faut pardonner le concept, c'est pas mal, je trouve.
Oui. un moment où on sent que le bien-être est là. Parce que, je pense qu'on clôt. 9h20. D'autres.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter peut-être ou... Non.